Comme M. Burke n'a pas écrit sur les constitutions, il n'a pas non plus écrit sur la Révolution française. Il ne parle ni de son commencement, ni de ses progrès. Il ne fait qu'exprimer sa surprise. « Il me semble, dit-il, que je sois dans une grande crise, non pas des affaires de la France seule, mais de toute l'Europe, peut-être de plus que l'Europe. » Toutes circonstances considérées, la Révolution française est la plus étonnante qui soit encore arrivée. Comme les gens sages sont étonnés de voir des choses absurdes et d'autres de voir des choses sages, je ne sais sur quoi fonder l'étonnement de M. Burke. Mais il est certain qu'il ne comprend pas la Révolution française. Elle est en apparence comme sortie soudainement du chaos. Mais ce n'est que la conséquence d'une révolution d'esprit qui existait antérieurement en France. L'esprit de la nation était changé d'avance et le nouvel ordre de choses a naturellement suivi le nouvel ordre de pensée. Je vais ici, aussi brièvement qu'il me sera possible, suivre les progrès de la Révolution française et marquer les circonstances qui ont contribué à la produire. Le despotisme de Louis XIV, joint à la splendeur de sa cour et l'ostentation de sa personne, avait tellement humilié et en même temps fasciné les yeux de la France que le peuple paraissait avoir perdu tout sentiment de sa propre dignité en contemplant celle de son grand monarque. Et tout le règne de Louis XV, qui n'est remarquable que par la faiblesse et la débauche, ne produisit d'autre changement que celui de répandre une espèce de léthargie sur la nation, d'où elle ne paraissait avoir aucune inclination de sortir. Les seules lignes de l'esprit de liberté qui parurent pendant ce temps-là sont dans les écrits des philosophes français. Montesquieu, président du Parlement de Bordeaux, alla aussi loin sous un gouvernement despotique qu'un écrivain pouvait aller. Et étant obligé de se partager entre les principes et la prudence, son esprit paraît souvent voilé. Et nous devons croire qu'il n'a pas dit tout ce qu'il aurait pu dire. Voltaire, qui était tout à la fois le flatteur et le persifleur du despotisme, adopta un autre genre. Son fort fut d'exposer et de tourner en ridicule les superstitions que les artifices des prêtres et des hommes d'État avaient entrelacées avec les gouvernements. Ce ne fut pas la pureté de ses principes, ou son amour du genre humain, car la satire et la philanthropie ne sont pas ordinairement d'accord, qui l'engagea à faire ses attaques. Mais la grande aptitude à voir la folie sous sa vraie forme et son penchant irrésistible à la ridiculiser. Elles furent cependant aussi terribles que si ses motifs eussent été purs, et ils méritent les remerciements plutôt que l'estime du genre humain. On trouve, au contraire, dans les écrits de Rousseau et de l'abbé Raynal, une tendresse de sentiment en faveur de la liberté qui attire le respect et élève les facultés humaines. Mais après avoir excité cette élévation, il n'en dirige pas les opérations et laisse l'esprit épris d'un objet sans lui donner les moyens de le posséder. Quesnay, Turgot et les amis de ces auteurs ont écrit dans un genre sérieux, mais ils ont eu le même désavantage que Montesquieu. Leurs écrits abondent en maximes morales de gouvernement, mais sont plutôt dirigés pour économiser et réformer l'administration du gouvernement que le gouvernement lui-même. Néanmoins, tous ces écrits, ainsi que plusieurs autres, produisirent leur effet. Et dans la différente manière dont ils traitèrent le sujet des gouvernements, Montesquieu par son jugement et sa connaissance des lois, Voltaire par son esprit, Rousseau et Raynal par leur élévation, et Quesnay et Turgot par leur maxime morale et leur système d'économie, les lecteurs de toutes les classes trouvèrent quelque chose de conforme à leur goût. Et au moment où la querelle commença entre l'Angleterre et ses ci-devant colonies de l'Amérique, l'esprit des recherches politiques se répandit dans la nation. Dans la guerre que la France entreprit ensuite en faveur des États-Unis, il est très connu que la nation devançait le ministère. L'une et l'autre avaient leur vue, mais ces vues étaient dirigées vers différents objets. L'une cherchait la liberté et l'autre à se venger de l'Angleterre. Les officiers et les soldats qui passèrent après cela en Amérique se trouvèrent accidentellement placés dans l'école de la liberté et en apprirent les principes et la pratique par cœur. Comme il était impossible de séparer les événements militaires qui eurent lieu en Amérique des principes de la Révolution américaine, la publication de ces événements en France était nécessairement liée avec celle des principes qui les avaient produits. Plusieurs des faits étaient eux-mêmes des principes. tels que la Déclaration de l'indépendance de l'Amérique et le traité d'alliance entre la France et l'Amérique, qui reconnaissaient les droits naturels de l'homme et qui justifiaient la résistance à l'oppression. Le ministre des Affaires étrangères en France, alors le comte de Vergennes, n'était pas l'ami de l'Amérique. Et c'est une justice et une reconnaissance due à la reine de France de dire que ce fut elle qui mit la cause de l'Amérique en vogue à la cour de France. Le comte de Vergennes était l'ami et le compagnon du docteur Franklin, et le docteur avait obtenu, par ses manières agréables, beaucoup d'influence sur lui. Mais quant au principe, le comte de Vergennes était un despote. La situation du docteur Franklin, comme ministre d'Amérique en France, doit être prise en considération dans cette chaîne de circonstances. Le caractère diplomatique circonscrit celui qui en est revêtu dans le cercle le plus étroit de la société. Il empêche les liaisons par une réciprocité de soupçons. Et un diplôme est une espèce d'atome sans connexion, continuellement repoussante et repoussée. Mais il n'en fut pas de même du docteur Franklin. Il n'était pas le diplôme d'une cour, mais de l'homme. Sa réputation comme philosophe était établie depuis longtemps et son cercle de société en France fut universel. Le comte de Vergennes s'opposa longtemps à la publication des constitutions américaines traduites en français. Mais il fut enfin obligé de céder à l'opinion publique et à une espèce de nécessité de paraître conséquent en permettant de rendre public ce qu'il avait entrepris de défendre. Les constitutions américaines sont pour la liberté, ce qu'une grammaire est pour les langues. Elles définissent les parties du discours et les construisent dans la pratique selon les règles de la syntaxe. La situation particulière du ci-devant marquis de Lafayette est un autre chaînon de la grande chaîne. Il servait en Amérique en qualité d'officier et par l'universalité de ses amis et de ses connaissances était aussi lié avec le gouvernement civil qu'avec les corps militaires. Il parlait la langue du pays, entrait dans les discussions sur les principes du gouvernement et était toujours bien reçu aux élections. Lorsque la guerre fut terminée, il se répandit dans toute la France un vaste renfort pour la cause de la liberté par le retour des officiers et des soldats français. L'expérience se joignit alors à la théorie et il ne manquait pour lui donner une existence réelle qu'une occasion. L'homme ne peut pas, à proprement parler, faire des circonstances convenables à ses desseins. Mais il a toujours le pouvoir d'en tirer parti quand elles arrivent, et ce fut le cas en France. M. Necker sortit du ministère au mois de mai 1781, et ensuite, par la mauvaise administration des finances, et particulièrement pendant l'administration extravagante de M. de Calonne, le revenu de la France, qui était de près de 600 millions, ne fut pas suffisant pour la dépense de l'État. Non pas parce que le revenu était diminué, mais parce que la dépense était augmentée. Et voilà la circonstance dont se servit la nation pour amener une révolution. M. Pitt a souvent dans ses budgets ou projets d'impôts fait allusion à l'état des finances de la France sans entendre ce sujet. Si les parlements de France avaient été aussi disposés à enregistrer les édits pour de nouvelles taxes qu'un parlement anglais est disposé à accorder des subsides, il n'y aurait pas eu de dérangement dans les finances et la révolution n'aurait pas encore eu lieu. Ce que j'avance deviendra plus clair par la suite. Il faut d'abord expliquer de quelle manière on mettait les impôts en France. Le roi, ou plutôt le ministre qui agissait en son nom, faisait un édit pour les taxes qu'il envoyait aux divers parlements pour être enregistrés. Car cet édit n'avait force de loi qu'après son enregistrement par les parlements. Il existait depuis longtemps des disputes entre la Cour et les parlements sur l'étendue de leur pouvoir à cet égard. La Cour prétendait que l'autorité des parlements ne s'étendait pas plus loin que de remontrer ou de donner des raisons contre les taxes proposées, se réservant à elle-même le droit de décider si ces raisons étaient bien ou mal fondées, et en conséquence de retirer l'édit comme matière de choix, ou d'en ordonner l'enregistrement comme matière de droit. Les parlements, de leur côté, soutenaient qu'ils avaient non seulement droit de remontrer, mais de rejeter. Et dans cette circonstance, ils étaient toujours soutenus par la nation. Revenons à l'ordre de ma narration. M. de Calonne avait besoin d'argent, et comme il connaissait l'opiniâtreté des parlements sur les nouvelles taxes, il chercha à les aborder avec des moyens plus doux que ceux de l'autorité directe, ou à éluder leur vigilance par une habile manœuvre. Pour cet effet, il fit revivre le projet d'assembler un corps d'individus des différentes provinces sous le nom d'une assemblée de notables, qui furent convoqués en 1787 et qui devaient ou recommander au Parlement d'enregistrer l'édit des impôts ou faire eux-mêmes en cette occasion la fonction des parlements. Une pareille assemblée avait été convoquée en 1617. Comme nous devons regarder cette circonstance comme le premier pas vers la Révolution, il est à propos d'entrer dans quelques particularités sur ce sujet. L'Assemblée des notables a, dans quelques endroits, été prise pour les États généraux, mais c'était un corps tout différent. Les États généraux étant électifs, au lieu que les personnes qui composaient l'Assemblée des notables étaient toutes nommées par le roi et formaient un corps de 140 membres. Mais comme M. de Calonne ne pouvait pas compter sur la majorité de cette assemblée en sa faveur, il les arrangea fort habilement de manière à ce que 44 devinssent la majorité dans un nombre de 140. Pour cet effet, il les distribua en 7 bureaux séparés de 20 membres chacun. Toutes les questions générales devaient être décidées non pas à la pluralité des voix, mais à la pluralité des bureaux. Et comme 11 voix faisaient la pluralité dans un bureau et que 4 bureaux faisaient la pluralité sur 7, M. de Calonne avait de bonnes raisons de croire que, comme 44 personnes décideraient toutes les questions générales, il ne rencontrerait pas de difficultés. Mais tous ses projets le trompèrent et furent finalement cause de sa ruine. Le ci-devant marquis de Lafayette fut placé dans le second bureau dont le comte d'Artois était président. Cela fit passer en revue toutes les circonstances qui y avaient des rapports. M. de Lafayette accusa verbalement Calonne d'avoir vendu des domaines de la couronne pour 2 millions d'une manière qui paraissait inconnue au roi. Le comte d'Artois, comme pour l'intimider, car la Bastille existait alors, lui demanda s'il voulait mettre cette accusation par écrit. Il répondit que oui. Le comte d'Artois ne la demanda pas, mais apporta un message du roi à cet effet. M. de Lafayette mit alors son accusation par écrit pour être donnée au roi, en disant qu'il la soutiendrait. Cette affaire n'eut plus de suite, mais M. de Calonne fut peu de temps après renvoyé et se retira en Angleterre. Comme M. de Lafayette, par l'expérience qu'il avait acquise en Amérique, entendait mieux l'économie du gouvernement civil que la généralité de ceux qui composaient l'Assemblée des notables, le fort du travail tomba sur lui. Le plan de ceux qui avaient une constitution en vue fut de disputer à la cour le droit d'imposer, et quelques-uns dirent ouvertement leur opinion. Il y eut souvent des contestations entre le comte d'Artois et M. de Lafayette sur différents sujets. Quant aux arrérages déjà dus, ce dernier proposa d'y remédier en réglant la dépense sur le revenu et non pas le revenu sur la dépense. Et comme objet de réforme, il proposa d'abolir la Bastille et toutes les prisons d'État dans tout le royaume, dont l'entretien causait beaucoup de dépenses, et de supprimer les lettres de cachet. Mais on ne fit pas alors beaucoup d'attention à la première proposition. Et quant aux lettres de cachet, la majorité de la noblesse était en leur faveur. Quant aux moyens de pourvoir au trésor public, l'Assemblée refusa de prendre sur elle une augmentation d'impôts en disant qu'elle n'en avait pas le droit. Dans une discussion sur ce sujet, M. de Lafayette dit qu'il n'y avait qu'une Assemblée nationale, librement élue par le peuple et agissant comme ses représentants, qui peut mettre de nouvelles taxes. « Voulez-vous dire, demanda le comte d'Artois, les États généraux ?» M. de Lafayette répondit que oui. « Voulez-vous, ajouta-t-il, signer ce que vous dites pour que je le donne au roi ?» L'autre répliqua qu'il signerait non seulement cela, mais qu'il irait plus loin, et dirait que la méthode la plus efficace était que le roi accordât l'établissement d'une constitution. Comme l'un des plans n'avait pas réussi, celui de faire agir l'Assemblée des notables comme un parlement, il fallut avoir recours à l'autre qui était de recommander. Quant à cela, l'Assemblée tomba d'accord de recommander au Parlement l'enregistrement de 2 nouvelles taxes, l'impôt du timbre et l'impôt territorial. On évaluait le produit de ces impôts à 120 millions. Il faut à présent reporter notre attention sur les parlements auxquels on renvoie de nouveau la balle. L'archevêque de Toulouse, depuis archevêque de Sens et cardinal, fut chargé de l'administration des finances peu après le renvoi de M. de Calonne. Il fut aussi fait principal ministre, place qui n'existait pas toujours en France. Quand cette place n'existe pas, le chef de chacun des principaux départements travaille immédiatement avec le roi. Mais quand il y a un principal ministre, les autres ministres ne travaillent qu'avec lui. L'archevêque parvint à une plus grande autorité qu'aucun autre ministre depuis le duc de Choiseul, et la nation était fort bien disposée en sa faveur. Mais par une ligne de conduite inconcevable, il perdit toutes les occasions de faire le bien, devint despote, fut disgracié et cardinal. L'assemblée des notables étant séparée, le nouveau ministre envoya les édits de deux nouveaux impôts, recommandés par l'assemblée, au Parlement pour y être enregistrés. Ils vinrent d'abord au Parlement de Paris, qui fit réponse qu'avec les charges que soutenait la nation, le mot de taxe ne devait être prononcé que pour les diminuer, et qui rejeta les deux édits. Sur ce refus, le Parlement fut mandé à Versailles, où le roi tenait ce que l'on appelle un lit de justice. Et les deux édits furent enregistrés en présence du Parlement par un ordre d'État, de la manière dont j'en ai fait mention dans un autre endroit. Là-dessus, le Parlement retourna à Paris, renouvela ses séances selon la forme accoutumée, et fit biffer l'enregistrement en protestant contre tout ce qui avait été fait à Versailles et déclarant l'enregistrement nul et illégal. Tous les membres du Parlement reçurent alors une lettre de cachet qui les exilait à Troyes en Champagne. Mais comme ils demeurèrent aussi inflexibles dans le lieu de leur exil qu'auparavant, et que la vengeance ne suppléait pas aux impôts, ils furent quelque temps après rappelés à Paris. Les édits leur furent encore présentés, et le comte d'Artois entreprit d'agir comme représentant du roi. Il vint donc à Paris en grande procession, et le Parlement s'assembla pour le recevoir. Mais la pompe et la parade avaient perdu leur influence en France, et quelque idée qu'il ait eue de son importance en partant de Versailles, il eut à s'en retourner avec celle de la mortification et du manque de succès. Lorsqu'il descendit de voiture pour monter au Parlement, la foule, qui était fort nombreuse, fit entendre ses murmures en disant « C'est Monsieur d'Artois qui veut encore de notre argent ». Le mécontentement marqué dont il s'aperçut lui causa quelques appréhensions, et l'officier de garde qui l'accompagnait cria « Aux armes !». Ces mots furent articulés si haut qu'ils retentirent dans toutes les avenues du palais et produisirent une confusion momentanée. J'étais alors dans un des appartements par où il devait passer, et je ne pus m'empêcher de faire des réflexions sur la misérable condition d'un homme méprisé. Il s'efforça de faire impression sur le Parlement par de grands mots, ouvrit son discours par ces paroles « Le roi, notre seigneur et notre maître ». Le Parlement le reçut très froidement et avec sa résolution ordinaire de ne point enregistrer l'impôt. Et cette entrevue se termina ainsi. Après cela, une nouvelle question fut agitée. Dans les différents débats et dans les contestations qui s'élevèrent dans la cour et les parlements au sujet des taxes, le Parlement de Paris déclara à la fin que, quoique c'eût été la coutume des parlements d'enregistrer les édits pour les taxes comme affaire de convenance, ce droit n'appartenait qu'aux États généraux, et que, conséquemment, le Parlement ne pouvait pas, avec décence, discuter sur ce qu'il n'avait pas le droit de faire. Le roi vint ensuite à Paris et alla au Parlement, où il resta depuis 10 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir, et avec une franchise qui parut naturelle, comme sans avoir consulté le cabinet ou le ministère, donna sa parole au Parlement que les États généraux seraient convoqués. Mais il y eut ensuite une autre scène sur un objet tout à fait différent des premiers. Le ministère et le cabinet ne se souciaient pas de convoquer les États généraux. Ils savaient bien que si les États généraux s'assemblaient, leur chute était certaine. Et comme le roi n'avait pas fixé le temps, ils s'avisèrent d'un projet fait pour éluder sans paraître s'opposer. Dans cette intention, la cour se mit elle-même à faire une espèce de constitution. Ce fut principalement l'ouvrage de M. Lamoignon, garde des Sceaux, qui s'est tué depuis. Ce nouvel arrangement consistait dans l'établissement d'une cour plénière qui serait investie de tous les pouvoirs dont le gouvernement pourrait avoir besoin. Les membres de cette cour devait être nommé par le roi. Le droit tant contesté de mettre l'impôt fut abandonné de la part du roi et un nouveau code de loi substitué au premier. Ce projet, dans plusieurs points, contenait de meilleurs principes que ceux qui avaient jusqu'ici servi de base à l'administration du gouvernement. Mais quant à la cour plénière, ce n'était qu'un intermédiaire par lequel le despotisme devait passer avant de paraître lui-même sur la scène. Le cabinet avait fondé de grandes espérances sur ce nouveau plan. Ceux qui devaient composer la cour plénière étaient déjà nommés. Et comme il fallait sauver les apparences, on y avait placé plusieurs des personnes les plus estimées de l'État. Elle devait s'assembler le 8 mai 1788. Mais on trouva deux objections bien fortes pour s'opposer à sa réunion. On en attaqua la légalité du côté du principe et du côté de la forme. Sur le principe, on dit que le gouvernement n'avait pas le droit de se changer lui-même, et que si l'on en admettait la pratique, elle deviendrait principe et servirait d'exemple pour toutes les altérations qu'il plairait au gouvernement de faire. Que le droit de changer le gouvernement était un droit national et non pas un droit de gouvernement. Et du côté de la forme, on maintint que la cour plénière n'était qu'un cabinet plus nombreux. Les ci-devant ducs de La Rochefoucauld, de Luxembourg, de Noailles et plusieurs autres ne voulurent point accepter leur place et s'opposèrent à tout le plan. Quand l'édit pour établir cette nouvelle cour fut envoyé au Parlement pour y être enregistré et mis à exécution, les parlements refusèrent aussi. Le Parlement de Paris ne se contenta pas de refuser, il ne reconnut pas l'autorité et la contestation se renouvela plus fort que jamais entre la cour et le cabinet. Tandis que le Parlement était assemblé pour discuter ce sujet, le ministère fit environner le palais d'un régiment de soldats et former une espèce de blocus. Les membres envoyèrent chercher des lits et des provisions et vécurent comme dans une citadelle assiégée. Comme ce blocus n'avait pas produit l'effet désiré, l'officier commandant reçut ordre d'entrer dans le Parlement et d'en saisir les membres. Ce qu'il fit, et plusieurs des plus récalcitrants furent envoyés dans différentes prisons. À peu près dans ce temps, il arriva une députation de la province de Bretagne pour remontrer contre l'établissement de la cour plénière, et l'archevêque envoya les députés à la Bastille. Mais l'intrépidité de la nation était invincible. Elle connaissait si bien l'avantage du terrain qu'elle avait pris, celui de refuser l'impôt, qu'elle se contenta d'une espèce de résistance passive qui bafoua tous les plans alors formés contre elle. On fut finalement obligé de renoncer au projet de la cour plénière. Le principal ministre, peu de temps après, subit son sort, et M. Necker fut rappelé. La tentative d'établir la cour plénière eut un effet sur la nation dont elle ne s'aperçut pas elle-même. C'était une sorte de nouvelle forme de gouvernement qui servit insensiblement à faire disparaître l'ancienne et à la désarçonner de l'autorité superstitieuse de l'Antiquité. C'était le gouvernement qui détrônait le gouvernement, et l'ancien régime, en tentant d'en créer un nouveau, laissa un vide. Le manque de succès de ce projet renouvela celui de convoquer les États généraux, et cette matière donna lieu à une nouvelle question politique. Il n'y avait pas de forme réglée pour convoquer les États généraux. On entendait par là une députation du clergé, de la noblesse et du tiers-état, mais leur nombre n'avait pas toujours été le même. Ils n'avaient été convoqués que dans des occasions extraordinaires, et leur dernière convocation avait été en 1614. Ils s'étaient alors assemblés en nombre égal dans chaque ordre et avaient voté par ordre. M. Necker ne tarda pas à s'apercevoir que le mode de 1614 ne remplirait ni les vues du gouvernement actuel ni de la nation. Dans l'état où étaient les choses, ils ne se seraient accordés sur rien. Ils seraient entrés dans des discussions sans nombre sur les privilèges et sur les exemptions, ce qui n'aurait aucunement pourvu aux besoins du gouvernement ni au désir de la nation d'avoir une constitution. Mais comme il ne voulait pas décider cette question par lui-même, il rappela les notables et la laissa à leur décision. Cette assemblée étant principalement composée des nobles et du haut clergé, et se trouvant conséquemment juge et partie dans l'affaire, décida en faveur du mode de 1614. Cette décision n'était conforme ni aux vœux de la nation, ni à celui de la cour, car l'aristocratie s'opposait à toutes deux et réclamait des privilèges indépendants de l'une ou de l'autre. Le sujet fut repris par le Parlement, qui recommanda que le nombre des communes fût égal à celui des deux autres ordres, et que les trois ordres s'assemblassent dans une chambre et votassent en commun. Le nombre fut finalement fixé à 1200, 600 pour les communes, et c'était moins que leur proportion en raison de leur valeur et de leur importance dans l'État, 300 pour le clergé et 300 pour la noblesse. Mais quant au mode de s'assembler, soit dans différentes chambres ou en commun, ou à la manière de voter, soit par ordre ou par tête, cela ne fut pas décidé. L'élection qui suivit ne fut pas une élection contestée, mais une élection vigoureuse. Les candidats n'étaient pas des hommes, mais des principes. Il se forma des sociétés dans Paris, et des comités de correspondance et de communication s'établirent dans toutes les villes du royaume pour éclairer le peuple et lui expliquer les principes du gouvernement civil. Et l'élection fut conduite avec tant d'ordre qu'elle ne donna pas même lieu à la rumeur du tumulte. Les États généraux devaient s'assembler en avril 1789, mais ils ne s'assemblèrent qu'au mois de mai. Ils prirent trois chambres différentes, ou plutôt l'aristocratie et le clergé se retirèrent dans deux chambres séparées. La majorité de l'aristocratie réclama le privilège de voter par ordre et de donner son consentement ou son refus de cette manière. Et plusieurs évêques et hauts bénéficiers réclamèrent le même privilège pour leur ordre. Le tiers-état, comme on l'appelait alors, désavoua toute connaissance d'ordre et de privilèges artificiels et fut non seulement résolu sur cet article, mais même un peu dédaigneux. Il commença à regarder l'aristocratie comme une espèce d'excroissance provenant de la corruption de la société. Et par la disposition qu'avait montrée l'aristocratie de conserver les lettres de cachet, et dans d'autres occasions, il était évident qu'on ne pouvait pas former une constitution en admettant des hommes sous un autre caractère que sous celui d'hommes de la nation. Après une multitude de discussions sur ce point, le tiers-état ou les communes, sur une motion faite par l'abbé Sieyès, se déclarèrent représentants de la nation, déclarant en même temps que les deux ordres de la noblesse et du clergé ne pouvaient être considérés que comme des députés de cœur et ne pouvaient avoir voix délibérative qu'en se réunissant sous un caractère national aux représentants de la nation. Ce décret éteignit le nom d'États généraux et donna à l'Assemblée celui qu'elle porte aujourd'hui, Assemblée nationale. Cette motion ne fut point faite d'une manière précipitée. Elle fut le résultat d'une délibération réfléchie et concertée entre les représentants des communes et les membres patriotes des deux autres chambres qui voyaient la folie, le mal et l'injustice, des distinctions artificielles et des privilèges. Il paraissait évident à tous les gens sensés qu'on ne pouvait former de constitution qui pût mériter ce nom sur d'autres bases que celles de la nation. L'aristocratie s'était jusqu'ici opposé au despotisme de la cour et avait affecté le langage du patriotisme. Mais elle s'y était opposée comme un rival, de même que les barons d'Angleterre s'étaient opposés au roi Jean, et elle s'opposait alors à la nation par les mêmes motifs. Lorsque cette motion eut passé, les représentants de la nation, comme on l'avait projeté, envoyèrent une députation aux deux autres chambres pour les inviter à se joindre à eux sous un caractère national afin de procéder aux affaires de l'État. La majorité du clergé, principalement les curés de paroisse, quittèrent la chambre du clergé et joignirent les communes. Et 45 membres de l'autre chambre en firent autant. Il y a une espèce d'histoire secrète tenant à cette dernière circonstance qui a besoin d'explication. On crut qu'il n'était pas prudent que tous les membres patriotes de la chambre de la noblesse se retirassent tout d'un coup. Et en conséquence de cet arrangement, ils se retirèrent petit à petit, laissant toujours quelques-uns d'entre eux pour discuter la question et pour surveiller les autres. Le nombre de ceux qui se retirèrent monta bientôt à 80 et devint rapidement considérable, ce qui, joint à la majorité du clergé, réduisit les mécontents à un très petit nombre. Le roi, qui, peu semblable aux personnes revêtues de cette dignité, a le cœur excellent, se montra disposé à recommander l'union des trois chambres sur les principes adoptés par l'Assemblée nationale. Mais les mécontents firent leurs efforts pour l'empêcher et formèrent un autre projet. Leur nombre était composé de la majorité de la chambre aristocratique et de la minorité du clergé, principalement d'évêques et de hauts bénéficiers. Ils résolurent de tout tenter et d'employer la force et la ruse. Ils n'objectaient point à l'établissement d'une constitution, mais ils voulaient eux-mêmes en dicter les principes et la faire d'une manière conforme à leur vue et à leur position particulière. D'un autre côté, la nation désavouait toute autre prétention de leur part, excepté la qualité de citoyen, et était déterminée à rejeter leurs réclamations mal fondées. Plus l'aristocratie voulut se montrer, plus elle fut méprisée. Il y avait une imbécilité visible et un manque d'énergie dans la plupart d'entre eux, une sorte de je ne sais quoi, de façon qu'en affectant de vouloir être plus que citoyens, ils étaient moins que des hommes. Elle perdit du terrain plutôt par le mépris qu'elle excita que par la haine qu'on lui porta. Ce n'était pas un lion que l'on craignait, mais un âne dont on se moquait. Voilà en général le caractère d'aristocratie ou de ce que l'on appelle noble ou noblesse, ou plutôt ignoblesse dans tous les pays. Le projet des mécontents avait donc alors deux objets en vue, savoir de délibérer et de voter par ordre, plus particulièrement sur les questions touchant la Constitution. Par ce moyen, la Chambre aristocratique aurait eu la négative sur tous les articles de la Constitution, ou, en cas qu'ils ne puissent pas parvenir à ses fins, de renverser entièrement l'Assemblée nationale. Pour effectuer l'un ou l'autre de ces objets, ils commencèrent à cultiver l'amitié du despotisme qu'ils avaient jusqu'ici voulu rivaliser, et le comte d'Artois devint leur chef. Le roi, qui a déclaré depuis qu'on avait surpris sa religion, tint, selon l'ancien usage, un lit de justice dans lequel il régla qu'on délibérerait et voterait par tête dans certaines occasions, mais conserva aux trois chambres la faculté de délibérer et de voter par ordre sur toutes les questions concernant la Constitution. Cette déclaration du roi fut faite contre l'avis de M. Necker, qui commença alors à s'apercevoir qu'il ne plaisait plus à la cour et qu'on pensait à un autre ministre. Comme la forme de s'assembler par chambre était encore conservée en apparence, quoique effectivement détruite, les représentants de la nation, aussitôt après la déclaration du roi, se retirèrent dans leur chambre pour délibérer sur une protestation contre la dite déclaration. La minorité de la noblesse s'assembla dans un endroit particulier pour délibérer sur le même sujet. Les mécontents avaient alors concerté leurs mesures avec la cour, et le comte d'Artois s'était chargé de les conduire. Et comme ils virent, par le mécontentement que la déclaration avait excité et l'opposition qu'elle avait occasionnée, qu'ils ne pourraient point diriger la Constitution en votant par ordre, ils en vinrent à leur second objet, celui de conspirer contre l'Assemblée nationale et de la détruire. Le lendemain matin, les portes de l'Assemblée nationale se trouvèrent fermées et gardées par des troupes qui empêchèrent les membres d'y entrer. Là-dessus, ils se retirèrent dans un jeu de paume qui était l'endroit le plus convenable qu'ils purent alors trouver, et après avoir repris leur séance, prêtèrent serment de ne jamais se séparer, dans quelque circonstance qu'ils pussent se trouver, la mort exceptée, avant d'avoir rétabli une constitution. Comme l'essai de fermer les portes n'avait eu d'autre effet que celui de produire une plus grande union entre les membres, elles furent ouvertes le lendemain, et les affaires publiques y furent traitées comme à l'ordinaire. Nous ne devons pas à présent perdre de vue la formation du nouveau ministère qui devait accomplir la ruine de l'Assemblée nationale. Mais comme il fallait des forces, on donna des ordres pour un rassemblement de 30 000 hommes dont le commandement fut donné à Breuil, l'une des personnes désignées pour le nouveau ministère, que l'on fit revenir de sa campagne pour cet effet. Comme il fallait des ménagements pour que ce plan ne fût pas divulgué jusqu'à ce qu'il fût mûr pour l'exécution, c'est à cette politique que l'on doit attribuer une déclaration faite par le comte d'Artois dont il est à propos de faire mention. Il était évident que, tant que les mécontents continueraient à se tenir dans leurs chambres séparées, cette mesure exciterait plus de jalousie que s'ils se réunissaient aux représentants de la nation, et que leur complot pourrait être soupçonné. Mais comme ils avaient pris cette résolution, et qu'il leur fallait un prétexte pour s'en départir, il devint nécessaire d'en trouver un. On fit faire au comte d'Artois cette déclaration que s'il ne se rendait pas à l'Assemblée nationale, la vie du roi serait en danger. Sur quoi ils quittèrent leur chambre et se réunirent. Quand le comte d'Artois fit cette déclaration, on la regarda comme absurde de sa part, et on crut qu'elle n'était destinée qu'à tirer de leur situation désagréable le petit nombre de membres qui n'étaient point réunis aux communes, et cette conclusion aurait été juste s'il n'était rien arrivé par la suite. Mais comme les événements découvrent toujours mieux les causes, cette réunion apparente n'était qu'une couverture pour les machinations qui se tramaient, et la déclaration répondait à ses fins. Peu de temps après, l'Assemblée nationale se trouva environnée de troupes, et il en arrivait tous les jours par milliers. Cette circonstance occasionna une sorte de remontrance de l'Assemblée nationale au roi sur le peu de convenance de cette mesure et pour lui en demander la raison. Le roi, qui n'était pas dans le secret, comme il l'a depuis avoué, donna pour réponse qu'il n'avait d'autre objet en vue que de conserver la tranquillité publique qui paraissait en danger. Mais quelques jours après, le complot se découvrit. M. Necker et les autres ministres furent renvoyés. On forma un nouveau ministère des ennemis de la Révolution, et Breuil, avec environ 25 ou 30 000 hommes de troupes étrangères, était arrivé pour le soutenir. Le masque était alors levé, et les choses en vinrent à une crise. L'événement fut que, dans l'espace de 3 jours, les nouveaux ministres et leurs suppôts se trouvèrent obligés de quitter la France, que la Bastille fut prise, et Breuil et ses troupes dispersées, comme nous l'avons déjà raconté dans un endroit de cet ouvrage. Il y a des circonstances curieuses dans l'histoire de ce ministère mort-né et de cet avorton de conspiration pour former une contre-révolution. Le château de Versailles, où se tenait la cour, n'était qu'à quelques centaines de pas de la salle de l'Assemblée nationale. Les deux places étaient dans ce moment comme les quartiers généraux des deux armées ennemies. Cependant, la cour était aussi peu instruite des nouvelles arrivées de Paris à l'Assemblée nationale que si elle avait résidé à 100 lieues de là. Le ci-devant marquis de Lafayette, qui, comme nous l'avons dit, avait été choisi pour présider l'Assemblée nationale dans cette occasion particulière, envoya, par ordre de l'Assemblée, 3 députations successives au roi le jour de la prise de la Bastille pour conférer avec lui sur l'état des affaires. Mais les ministres, qui ne savaient pas même que cette forteresse fut attaquée, empêchaient toute espèce de communication et se félicitaient mutuellement de leur succès. Mais dans peu d'heures, les nouvelles arrivèrent si rapidement et si successivement qu'ils n'eurent plus d'autre parti à prendre que celui d'abandonner leur bureau avec la plus grande précipitation. Les uns se déguisèrent d'une manière, les autres d'une autre. Aucun d'eux ne partit sous sa véritable forme. Leur sollicitude fut alors d'arriver avant la nouvelle de leur désastre, de crainte d'être arrêtés. Mais quoiqu'elle se répandit avec la rapidité de l'éclair, leur fuite fut encore plus précipitée. Il est digne de remarque que l'Assemblée nationale ne fit pas du tout poursuivre ces conspirateurs fugitifs, qu'elle ne fit même aucune mention d'eux et qu'elle ne chercha à se venger d'aucune manière. Occupée de l'établissement d'une constitution fondée sur les droits de l'homme et sur l'autorité du peuple, la seule autorité sur laquelle le gouvernement a droit d'être assis dans tous les pays, l'Assemblée nationale ne fut émue d'aucune de ces passions basses qui marquent le caractère des gouvernements insolents fondés sur leur propre autorité ou sur l'absurdité d'une succession héréditaire. C'est une des facultés de l'esprit humain de prendre impression de ce qu'il contemple et d'être à l'unisson de son objet. La conspiration ainsi dissipée, un des premiers objets de l'Assemblée nationale, au lieu de ses proclamations vindicatives des autres gouvernements, fut de publier une déclaration des droits de l'homme comme la base sur laquelle elle devait bâtir la nouvelle constitution et que nous joignons ici.